Vous écoutez
RMC.
Je vous donne toutes les infos, ensuite on débat à 24h de la finale. Il y a plusieurs choses à voir. Retour de Verratti dans le groupe. Bon, il ne sera pas titulaire. Enfin bon, peut-être le voir un petit peu en fin de match, on ne sait pas. Gueye, incertain, vraisemblablement, il ne sera pas titulaire. Ah. Donc, on devrait avoir demain un 4-4-2.
Encore un nouveau milieu de terrain.
Exactement. Alors, ce que nous disait Loïc Tanzi, c'est Marquinhos sûr devant la défense, soit avec Herrera, soit avec Paredes, ça on ne sait pas. Et puis après, les quatre de devant habituels, Neymar, Di Maria qui est de retour, Mbappé et Icardi. Bon, et la défense, évidemment.
Deux au milieu, face au collectif de Leipzig, les mecs ont intérêt à cavaler, les quatre de devant ont intérêt à cavaler aussi.
Toi, tu rejoins 4-3-3?
Non, moi, je m'en fous à la limite du 4-3-3, non, du 4-4-2.
C'est mieux à Séville. Enfin, pardon, à Leipzig.
Le truc, c'est, tu peux partir dans l'idée que tu vas densifier ton milieu si tu considères que les mecs de devant ne vont pas garder le ballon, ne vont pas se battre pour le récupérer vite, ne vont pas faire les efforts. Et donc, dans ce cas-là, si tu sens que t'as un problème avec ça, eh ben, tu dis, je mets à tous les coups, un milieu de plus, parce que le milieu de plus, je sais que lui, il va courir, je sais qu'il va travailler, donc je le mets. Moi, dans mon idéal, je préfère deux au milieu et les quatre devant, avec les quatre qui travaillent, parce que quand ils vont avoir le ballon, ça va être beaucoup plus dangereux, ça va envoyer du jeu, ça va être quand même plus agréable. Je ferai ça, mais encore faut-il qu'il soit sûr que les quatre devant travaillent comme des chiffonniers.
C'est surtout, pourquoi pas prendre la piche à son propre jeu, en fait.
Absolument.
C'est-à-dire que Leipzig, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent défendre en avançant, être agressif sur le porteur, investir le camp adverse.
Ouais.
Et tu vas me dire
qu'avec les quatre joueurs qui jouent 5 et 8 en même temps.
Voilà, mais tu vas me dire qu'avec les quatre joueurs de devant qu'on a, on n'est pas capable de garder le ballon dans leur camp et de leur imposer justement.
Damien. Je ne veux voir que ça.
C'est ça. Et je veux dire, là où ils sont, ce qu'ils veulent, eux, c'est que défendre en avançant, investir encore une fois. Mets-les dans leur camp, tu vas voir comment ils vont être en difficulté.
Bien sûr.
Et ils supportent pas ça. T'as les équipes comme Dortmund l'a fait, le Bayern.
Le Bayern, bien sûr.
Et c'est là qu'ils ont eu le
plus de difficultés. Si tu fais ça et si tu les bouscules, Leipzig, c'est même une équipe que tu peux battre, facilement, on va dire, entre guillemets. Mais c'est même une équipe que, effectivement, tu peux mettre en grande difficulté et te rendre le match assez facile.
D'autant plus que eux jouent en bas, en les forçant à jouer bas. Ce qu'on n'a pas réussi à faire à l'Atletico, encore une fois. Mais l'Atletico a peut-être moins de qualité offensive et leur entraîneur aussi dans sa philosophie de jeu est peut-être moins porté vers l'offensive. Mais Leipzig, avec ce qu'ils ont, ils ont pas Werner, ils ont moins de profondeur disponible en jouant bas. Voilà, encore une fois, la solution c'est peut-être de ne pas subir le pressing mais de leur imposer ce qui eux veulent te faire subir.
Bon, bah donc dans ces cas-là, le 4-4-2 comme on le décrit là, il convient.
Si les mecs sont dans l'esprit et font les efforts collectifs, je pense que
si tu les 4-2 devant ne défendent pas,
dans n'importe quelle vie, si tu joues à moins 4, c'est dur.
Là tu morfles. Mais si l'esprit qu'on semble devoir noter dans l'équipe est maintenu, moi j'irai comme ça contre Leipzig, parce que déjà tu leur envoies un message, non seulement tu me fais pas peur, mais en plus c'est moi qui vais venir te chercher. Et si les mecs jouent, parce qu'on...
Et tu joues pas sur leur force. Tu joues pas sur les forces de l'adversaire, encore une fois.
Parce que quand ils l'ont fait, quand ce quatuor-là s'est mis en place et l'a fait, franchement, c'est bien. En gros, on va dire que la référence, c'est le match retour contre Dortmund. C'était pas Mbappé, c'était Sarabia. Mais t'avais deux mecs au milieu, c'était Gueye, Paredes. Les quatre devant ont beaucoup bossé. Neymar a beaucoup couru. Di Maria. Franchement, c'était bien. Comme en plus, c'est la référence de Tuchel. Faites la même chose, les gars, et Leipzig, normalement, ça passe.
Johan est avec nous au 32-16. Johan, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous.
Salut, Johan.
Johan, t'es d'accord avec ce que t'entends, là?
D'accord. Il y aurait pas mal de choses à dire. Moi, il y a le premier truc que je veux dire, c'est que si demain, Tuchel, il aligne un 4-4-2 comme ça, je serais très décontenancé et extrêmement surpris. Moi, là, au vu des dernières rencontres, et du parcours en Ligue des Champions, je vois pas comment il pourrait aligner ça, même face à une équipe qui semble quand même bien inférieure au PSG. Moi là, ce que je vois, c'est que devant, a priori, je vois pas comment Icardi pourra avoir sa place sur le terrain après le match qu'il a fait, et après la série de matchs qu'il a fait même.
Sauf que si tu enlèves Icardi, ça change le système.
Ouais, je pense plutôt qu'il va miser sur son petit triangle des Bermudes, là. Mbappé, Neymar, Di Maria, ou Xavier Volt et machin. Qu'au milieu, il va mettre un Marquinhos 106, qui, si jamais il y a besoin, peut descendre même plus bas, jouer vraiment 6 très bas pour faire un bloc, un gros triangle devant le but. Et après, bah, ça dépendra de Gueye. S'il y a Gueye, c'est Gueye. À mon avis, l'autre, c'est Herrera. Et puis Bernat et Kerrer. Et je vois pas comment il pourrait se dire je vais mettre Marquinhos avec Paredes, une paire qu'on a pas vue. Avec Icardi devant qui en glande pas une.
Et
avec les solistes à côté qui, eux, on sait, même s'ils font un peu des efforts quand on joue en 4-4-2, notamment Neymar et Di Maria, parce qu'ils jouent un peu plus bas, ils défendent un peu plus. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est léger, quoi. C'est pas leur qualité première.
Johan, je suis d'accord avec toi sur le match d'Atalanta. Icardi, bien sûr qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. On a eu un PSG qui a joué bas. Et Icardi, de toute façon, dans le jeu, bon, bah, tu sais très bien que c'est pas lui qui va te faire jouer, en fait. Mais t'as des joueurs dans le PSG qui sont capables de faire ça. À savoir Di Maria, Neymar, même Mbappé, ils sont capables. Là où tu vas mettre Icardi dans les meilleures dispositions, c'est en étant haut sur le terrain. Dans la surface de réparation. Amène-lui des ballons dans la surface de réparation. T'inquiète pas, hein, t'auras pas besoin de le voir pendant tout le match. Mais il va avoir des opportunités. Il sera plus frais pour les mettre, déjà. D'une. Ensuite, peut-être que tu vas mettre un Paredes Marquinhos, bah parce que oui, parfois tu vas peut-être pouvoir te faire transpercer. Et je pense que si tu as ce double, allez, ces deux gars costauds défensivement, et c'est à peu près aussi la vraie place de Paredes de jouer devant la défense aux côtés de Marquinhos, bon bah t'es capable d'avoir un axe qui est aussi assez solide. La seule chose qui peut me faire peur sur le fait de jouer haut, encore une fois, c'est cette profondeur que tu vas laisser dans le dos peut-être d'un Thiago Silva.
Bah, le truc, c'est que si le bloc suit...
Mais t'as pas Werner en face. Et c'est qui? T'as Poulsen, Patrick Schick.
Mais le bloc doit être compact et jouer haut. Et ça, c'est un truc que Thiago Silva a toujours du mal à emmener. C'est un peu ma crainte. Mais bon.
Johan, un truc à rajouter?
Ouais, un petit truc sur le 4-4-2. Je pense que ce 4-4-2-là, il aurait été... viable si on avait encore Cavani à la place d'Icardi. Ça, je pense que ça aurait été faisable. Aujourd'hui, quand vous regardez les caractéristiques des joueurs, je prends Icardi en particulier, je veux dire, c'est un mec qui court pas. Comment
ça, là-dessus, tu as raison. D'ailleurs, Cavani jouait dans le match contre Dortmund, qui est la référence. Avec un mec comme ça, là, il est évident que encore plus tu y vas avec les quatre devant, parce que tu sais que c'est un mec qui fait un tel boulot, qui certes n'a toujours pas été forcément compris par les gens qui regardaient les matchs, mais si ce soir vous avez vu l'Inter, si vous voyez le travail que fait Lukaku, qui est absolument phénoménal, ça aide vraiment une équipe, quoi. Ça aide vraiment une équipe. Mais il faut avoir la caisse physique, il faut avoir le volume. Le truc, c'est que je sais pas, moi, je vais pas venir pour dire, Icardi le fait pas, Icardi il est flemmard, Icardi il est ceci, cela. Je sais même pas s'il a la caisse de le faire. Ça se trouve, il est pas physiquement apte à faire ce que fait Cavani sur un terrain, ou ce que fait Lukaku, ou ce que font beaucoup d'attaquants aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un attaquant, c'est, si tu veux jouer à quatre devant, c'est ça qu'on demande à un attaquant, quoi.
C'est ce qui fait qu'il n'a pas sa place, à mon avis. Et en plus, si tout à l'heure on parlait, mais nous, là, l'équipe qu'on aligne depuis, pour la Ligue des Champions, hein, c'est quand même plutôt un bloc bas avec les mecs qui vont vite devant.
Ouais, mais parce que tu avais un adversaire qui pouvait te permettre de te le faire. Parce que tu savais que la défense de l'Atalanta, c'est lent.
Non,
de toute
même contre Dortmund, quand tu joues contre Dortmund en 3-4-3, c'est exactement ça. Tu mets.
Ouais, mais attends, contre Dortmund, t'as joué haut quand même. T'as pressé.
À l'aller?
Non, mais à l'aller, tu t'es déchiré.
Non, à l'aller, tu t'es trouvé de partout.
À l'aller, t'as été craintif, justement. Et c'est ça qui t'a fait perdre.
Non, non, on n'a pas été. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Moi, je pense qu'on a fait un bon match aller. On a joué bas.
Non, mais t'as pas fait un bon match aller, voyons. T'es fait déchirer dans tous les sens.
Bah, je suis pas d'accord avec cette analyse. Et les chiffres, par exemple, les chiffres illustrent plutôt ça.
Mais quel chiffre illustre ça?
On a subi pendant une. Bah, va voir les stats, Daniel. On a subi pendant une.
Et les stats de quoi?
Si je peux terminer ma phrase.
Vas-y,
donne-les-moi les chiffres si tu les as. Donne-les-moi.
Tu tapes l'équipe et tu vas voir sur l'équipe. Enfin, tu sais.
Alors, nous, on va sur RMC Sport, nous.
Non, mais vas-y, dis-moi combien. Dis-moi.
Enchaîne, Johan. Il doit parler de possession de balle, il doit parler de frappe, je sais pas, tout ça.
Et quelle frappe, possession de balle?
Et c'est pas grave, il a pas les chiffres. Allez, Johan, vas-y.
J'aimerais juste terminer sur. Et je suis d'accord avec vous sur le global, on va dire. On a subi pendant une heure. À partir du moment où on a pris le but, la dernière demi-heure, c'est Paris qui a accéléré.
c'est nous qui avons les occasions et on est presque à faire un 2-2. Donc quand on nous dit ouais, on a mal joué le match, non, parce que c'était un match aller-retour, 180 minutes, on a été bas et on a essayé de les prendre en compte chez eux, on savait qu'ils allaient attaquer et cette équipe-là, elle a bien performé. Au retour, Dortmund, ils n'ont rien montré, on les a piétinés, et voilà. Et là, contre l'Atalanta, c'est exactement la même chose. Donc moi, je ne vois pas pourquoi Tuchel, il va changer sa philosophie, c'est-à-dire, je mets
un bloc
bas.
Parce que tu ne joues pas contre la même équipe.
Et j'ai mon triangle des Bermudes. Oui, mais c'est celle qui a le plus de certitude, Damien, celle-ci.
Alors, cette façon on a fait le tour, là, globalement. J'aimerais juste...
S'il peut me trouver les kilomètres parcourus de ce soir-là, parce que les autres stats ne servent strictement à rien, que ce soit possession...
Ça sert à rien.
Non, mais c'est une blague, Johan. Alors là, excuse-moi. Dire que t'as 53.
Regarde la possession du Shakhtar ce soir.
Mais regarde la possession. Non, mais c'est... Alors là, t'es à côté de la plaque, mon ami, là. Excuse-moi. Dis-moi si le PSG ce soir-là, dans un match de Ligue des Champions de ce niveau, s'ils ont couru 110 km, ok, je dis que t'as raison.
Bon, d'accord, si c'est juste les kilomètres parcourus dans ce cas-là.
Mais sur un match comme ça, oui, c'est essentiel.
Non, mais on peut continuer à débattre tranquillement sans vous soyez d'accord.
On l'a ou pas ce chiffre,
Johan,
mais c'est pas, la possession, elle est partagée en plus sur ce match.
Johan, est-ce que l'absence.
Mais je les ai sous les yeux, les stats.
Johan, est-ce que l'absence de Navas demain t'inquiète ou pas?
C'est inquiétant, même si je pense que Sergio Rico est un bon gardien. Donc évidemment, Navas, qui est un gardien de classe internationale, là, on va descendre d'un cran par rapport à ça. Mais globalement...
T'as un gardien qui a gagné l'Europa League, hein. Toi, voilà, c'est pas non plus... C'est pas un
gros joueur des grands matchs. Hein.
Voilà. Non, mais Navas, on peut dire sans risque, je pense que Navas est quand même meilleur que Rico.
Bien sûr.
Mais Rico est un bon gardien, donc c'est inquiétant dans le sens où c'est toujours un peu le poste fébrile. Gardien.
Ok. Contre Dortmund, le PSG a couru 105 km, c'est l'équipe qui avait le moins couru de tous les huitièmes.
Tout à fait, ouais.
Ok. Et tu me dis que ça, c'est un match réussi à ce niveau-là. Ok, très bien. Très bien.
C'est logique. Et moi, je te dis juste, regarde les tirs. T'as 10 tirs.
Mais ça veut rien dire, les tirs. Les tirs, ça peut être un tir cadré que le gardien, que même Jean-Louis Tour arrête tranquillement. De quoi tu parles? Arrête avec ces stats à la noix. Ça fait 10 ans qu'on explique ça dans l'after. Le nombre de tirs, ça veut rien dire. Quel tir c'était? C'était des tirs dangereux. Tu sais qu'il y a le tir sur le poteau, il n'est même pas dans les frappes cadrées.
Oui, alors.
Ben ça n'empêche pas que c'est dangereux.
Quel rapport?
Pas de rapport. 105 km sur un match comme ça, c'est pas viable. Tu peux pas avoir fait un bon match. C'est
Johan,
pas possible.
Vous n'êtes pas d'accord là-dessus.
Tu peux ne pas être d'accord, tu as raison, mais tu peux te tromper surtout. Tu peux très mal comprendre le foot, c'est ton droit.
Johan, attends, depuis tout à l'heure, tactiquement et tout, il a juste dit un truc sur lequel t'es pas d'accord. C'est pas la peine de l'engueuler là, détends-toi.
Mais il dit, le PSG fait un bon match à Dortmund, il est à côté de la plaque, il a rien compris, c'est tout. Il faut lui dire ça, mais faut pas avoir peur de lui dire. Pourquoi t'as peur de lui dire? Damien, dis-lui, toi, il a pas compris.
Mais toi, t'insistes lourdement là-dessus, comme si t'avais dit que ça.
Oui.
Bah non, il a pas dit que ça, Johan. Il a dit plein d'autres trucs.
Il a dit d'autres trucs peut-être intéressants, mais là-dessus, il s'est trompé. Et le pire, c'est que lui, il reconnaît pas. Voilà. Parce que c'est un auditeur, il a tous les droits, l'auditeur. L'auditeur, il a le droit de venir raconter de la merde. On doit lui laisser dire ce qu'il veut.
Mais enfin!
On doit lui apprendre.
Il est pas d'accord avec toi!
Mais c'est pas qu'il est pas d'accord, c'est qu'il se trompe! Il se trompe! 105 km/h en Ligue des Champions, t'es dans l'échec! Tu n'es pas dans un bon match! S'il comprend pas ça, c'est qu'il a pas compris! Alors si tu veux pas lui dire parce que t'es assez focus pour pas lui dire, moi je lui dis, et s'il est pas content, mais c'est pas grave! C'est pas grave! On s'en fout que ça va d'un content. On s'en fout s'il est pas content.
Mais non, mais c'est pas que je suis pas content, mais c'est juste qu'on peut pas parler.
Mais je veux bien parler, Johan, mais tu te rends compte de la façon dont tu me dis, non, mais je sais pas. Mais Johan, moi je veux bien discuter avec toi.
Laisse-moi terminer ma phrase, Daniel.
Pardon, vas-y, termine.
Tu me dis on a couru pas beaucoup, je t'ai dit c'est vrai. Je t'ai dit, je te rappelle que ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on a joué bas pendant une heure. Et qu'on a défendu pendant une heure. Et tout d'un coup, tu me dis, on a couru pas beaucoup. Bah ouais.
Donc on a mal joué, Johan. Le PSG a mal joué, Johan. C'est tout ce que je veux te dire, moi.
Du match. Pendant une heure, tu défends, tu prends un but, pendant une demi-heure, tu attaques. Et là, t'es dangereux.
Johan.
On passe à autre chose. On va pas refaire le PSG Dortmund.
Le problème de ce PSG Dortmund, c'est que tu prends l'eau au milieu. Donc ça fait que tu subis, premièrement. Et je suis pas sûr que ce soit le plan de Thomas Tuchel de jouer bas contre Dortmund. Voilà. Après.
Damien, moi, ce que je dirais simplement, c'est que dans ce 3-4-3, il y en a un qui a été bon et pourtant on n'arrête pas de lui jeter les tomates, c'est Verratti. Donc c'était réfléchi. C'est-à-dire que dans ce 3-4-3 là, Verratti, il peut jouer
à
4 s'il y en a 3 derrière. Bien sûr.
Finalement, il a fini par me faire rire.
Ciao, Johan, à bientôt.
Johan, merci, passe une bonne soirée. Désolé de m'être énervé, mais sur les kilomètres, regarde, tu ne peux pas en Ligue des Champions dire que tu fais un bon match.
Salut, Johan, à bientôt. Alors, tout à l'heure, on va parler de Leipzig. J'ai une petite stat que m'envoie, vous allez voir qui me l'a, vous allez trouver qui me l'a envoyé. Nagelsmann a 33 ans.
L'âge du Christ.
Là, voilà. Donc, il est l'entraîneur le plus jeune à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Petit quiz. Trouvez-moi les deux suivants les plus jeunes dans l'histoire.
Ah, les deux suivants les plus, dans l'histoire?
Dans l'histoire.
Zidane doit pas être loin.
Hein, il est pas dans les six.
Il est pas dans les six jeunes.
Il est pas dans les six.
Il est allé en demi.
Qui est allé en demi-finale.
Ah ben, il faut remonter loin, non?
Ah, franchement, vous les connaissez par cœur.
Tourelle?
Non.
En demi.
Enfin, les cinq premiers, vous les connaissez par cœur. Il y a Guardiola dans les cinq premiers. C'est Jérôme Thomas qui vient de me le souffler. Il est quatrième. Il avait 38 ans avec le Barça. Et les deux, et alors, le deuxième et le troisième, alors, oh, quand vous allez avoir les noms, vous allez dire, mais c'est pas vrai, je le savais.
Non, vous savez, l'âge, moi, je suis
le troisième,
super gaffe, mais vas-y.
C'est Didier Deschamps avec Monaco. Il avait 35
évidemment,
ans.
Évidemment, bien sûr.
Et le deuxième, qui m'a envoyé cette stat, à votre avis, qui peut m'avoir envoyé une stat à 23h?
Luis.
Luis Fernandez.
C'est Luis.
Bon,
Oh, je m'en veux, Louis, je m'en veux. Viens ici me mettre des coups de fouet.
Louis, avec le PSG, avait 35 ans, 6 mois et 3 jours.
Évidemment. Bien sûr.
C'est étonnant quand même.
35 ans aussi, à Louis?
Ouais.
Bon. Ouais, il était jeune, Louis, bien sûr.
Ouais, il était jeune. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens pas s'il y a eu un débat sur son âge à l'époque. Enfin bon, c'était effectivement assez jeune. 35
Donc, comme quoi, quand il y a une idée reçue de dire que les jeunes entraîneurs n'ont pas leur chance en France, ils ont pu avoir leur chance en France.
Deschamps, effectivement. Et puis, alors, le cinquième, pour compléter, c'est Mourinho, hein, qui avait 41 ans avec Porto. Bon, mais là, on passe la barre des 40 ans, on va dire symbolique. J'ai pas l'âge de Yannick Noah, par contre, sur cette demi-finale, où il y avait Louis. Non, c'est une mauvaise blague. Marco est avec nous au 32-16.
C'est le sexto de Louis, en fait, c'est ça.
C'est ça, c'est pour le chauffer. Marco, supporter du PSG, salut Marco.
Ouais, mais moi j'aime pas qu'on rigole avec ça parce qu'il y a des gens. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça s'est passé.
Mais bien sûr qu'on sait comment ça s'est passé, que la légende dit que Noah a tout fait alors qu'en fait il n'a pas fait grand chose.
Non, mais ouais, mais voilà. Je le lis encore trop souvent.
À part aller
je
se balader sur la plage.
Et qu'on ne reconnaît pas, justement, même s'il était jeune, le travail aussi bien en 95 et en 96 que Louis a fait au PSG, c'est assez exceptionnel dans le placement des joueurs, dans l'approche tactique. C'est peut-être à ce moment-là même qu'il a été le meilleur.
Non, il avait 35 ans aussi.
En vieillissant, il a été moins bon. Il aurait dû rester jeune. Mais on souligne pas assez à quel point, et en plus des Coupes d'Europe remportées par des entraîneurs français, il y en a très peu, et il est dedans.
Bah,
et on le dit pas assez.
Bah, il y a Louis.
Et après, on le met pas sur la fiche des 50 ans du PSG, mais c'est pas grave.
Non, enfin, sur la fiche réduite, parce qu'il y a une grande et une petite. Ça t'a pas échappé.
Ah, je peux voir la grande, moi.
Il y a une grande, il y a Jérôme Bretagne, par exemple.
Il y a une grande.
Mais c'est Jérôme qui nous l'a expliqué. Il a dit la grande avec les 50.
Mais c'est celle où il y a les visages qu'on reconnaît même pas derrière la balustrade.
Ah, peut-être,
on les voit.
Il y a tout le monde. Par contre, sur la petite, il y a pas Cavani non plus d'ailleurs. Qui en est ému aujourd'hui d'ailleurs.
Mais c'est scandaleux ça.
Bon. Ouais, après il paraît qu'il y en a une avec 2000 trucs. Là, il y a Pierre Ducrot dessus, il paraît. Marco, bonsoir.
Oui, salut, comment ça va l'équipe?
Salut Marco.
Ça va et toi? Toi, tu veux absolument Paredes.
Ah, moi je veux absolument Paredes parce que je suis désolé ce que Gay, il a montré sur le match face à l'Atalanta. Je suis pas du tout d'accord. Lors de l'entrée de Paredes, on a pu voir que Paredes, sur 2-3 passes, il a pu casser 2-3 lignes sur les défenses de l'Atalanta. Et je trouve ça très, très, très important contre Leipzig lorsqu'on va les rencontrer demain. Je trouve que Paredes, il peut faire quelque chose de bien contre Leipzig demain. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, Gay, moi, je le veux pas demain. J'en peux plus de le voir.
De toute façon,
il joue pas. Hein.
Ouais, même. Il a fait un match de référence. On a tous été saucés, nous, les supporters parisiens. Mais là, aujourd'hui, j'en peux plus. Je veux plus le voir. Je veux plus voir ce mec-là sur le terrain. J'en peux plus, là, franchement.
Bah, c'est vrai qu'il y a.
Il y a plein. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'entends souvent. Moi aussi, je comprends pas, en fait.
Franchement,
le match retour contre Dortmund, moi, je le trouve très intéressant pour l'équipe.
Oui, toute l'équipe. Et même Verratti, que t'aimes pas. Hein.
Non, mais le match retour, il n'y est pas.
Ouais. Il n'est pas Verratti.
Ah, Verratti, il n'y est pas, le match retour. Bah oui, ouais. Sinon, tu vas pas en quart, voyons. Donc. J'ai fait exprès. Non, mais il faut bien titiller les idiots. Je dis pas ça pour toi, hein, pas toi, d'autres.
Ouais, il
n'y
a pas de
souci. Oui. On disait quoi? Ouais, Gay, dans le match retour contre Dortmund, après, évidemment, il y a ce fameux match référent. Moi, je. Tu peux, Damien, tu peux faire un match aussi énorme un autre quand même de Coupe d'Europe qui est peut-être pas aussi énorme mais qui est très bon, et c'est tout. Tu dois pouvoir retrouver après, ça. Ça peut pas disparaître, bordel.
C'est surprenant. On a l'impression même qu'il... bon, lui, faut qu'il soit, pour qu'il soit bon, je pense qu'il faut déjà qu'il soit ultra top physiquement. Et puis il faut peut-être aussi qu'il sente qu'il ait de l'importance dans un effectif, parce que alors Everton, toute proportion gardée, hein, mais voilà,
c'est pas la même importance qu'au PSG. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'il a besoin de se sentir important. Et le problème, c'est que dans un milieu où quand il joue avec Verratti, parce que très souvent d'ailleurs quand il y avait un 4-4-2, il y avait c'était Verratti Gueye, hein, la paire du milieu de terrain. Et c'est vrai qu'il touche.
Comment ça, la paire?
À la paire au tout début du 4-2-2-2. En championnat, je te parle, très souvent.
Je m'en souviens pas
beaucoup, moi, au tout début.
Parce que franchement, ça ne semble pas être une association qui peut formidablement fonctionner.
Très souvent, c'était ça. Au début, après, ça a évolué. Mais lui, Gueye, a toujours été présent dans le milieu de terrain, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est vrai, ça, oui.
Le joueur à côté, le système de jeu.
Après, c'est sûr que c'est un travail obscur, c'est se mettre devant le mec, c'est sans arrêt faire du placement, mais.
On sait
qu'il fasse plus.
Après, il y a certainement des choses où quand le PSG a le ballon, où c'est vrai qu'on peut être, déçu, c'est peut-être un des seuls qui peut réussir à se projeter peut-être un peu plus devant aussi, parce que ça fait partie de ses qualités naturelles, mais c'est pas assez efficient en tout cas, ça fait pas assez aux yeux jusqu'à présent.
Là, on a parlé de l'équipe. Maintenant, j'aimerais qu'on parle quand même de l'enjeu général pour Paris. Demain, c'est Leipzig. Alors, je vais un peu exagérer le trait. Et Damien connaît Leipzig par cœur. Est-ce que ce serait acceptable pour le PSG de perdre contre une équipe d'adolescents entraînée par un mec qui a 33 ans?
Oui, pour moi, oui. Je suis désolé de vous couper, mais pour moi, c'est intolérable. Déjà,
ce serait intolérable.
Parce que la question, c'était à l'envers. Après, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que tu disais.
Après, faut se l'avouer. Ce que Leipzig a présenté face à l'Atlético Madrid, c'était super beau à voir. Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, si Leipzig joue comme ça, ils vont nous poser d'énormes problèmes demain contre le Paris Saint-Germain. Faut pas se le mentir. Mais je suis désolé. Comme tout à l'heure, Daniel le disait, si on défend tous ensemble et que les stars de devant, là, ils arrêtent de faire leur chouchotte et à se mettre à défendre, je suis désolé. Normalement, le match,
justement,
il est pour nous, normalement.
C'est quoi? Et c'est là où il faut réussir à inverser la tendance. On entend, c'est vrai, oui, il faut défendre tous ensemble. Mais non, justement, fais les défendre eux dans leur camp.
Oui, mais à un moment, ils ont le ballon aussi, Damien. Le PSG va pas tout le temps avoir le ballon.
Mais justement, après, c'est un rapport de force, encore une fois.
Je suis désolé, ça, c'est dans tous les sports d'équipe, il n'y a pas de secret. Si on veut gagner, il faut que tout le monde défende. Je suis désolé, moi, j'aurais été sur le terrain, moi, j'aurais pété les plombs de jouer avec des mecs comme ça. Moi, je me crève sur le terrain, et eux, ces mecs-là, devant, ils ne se crèvent pas sur le terrain, ils veulent qu'attaquer et pas défendre. Mais non, c'est pas comme ça le jeu.
Alors, juste pour répondre à la question que je posais, les gars, vous en pensez quoi? Demain, ce serait faute professionnelle de ne pas se qualifier contre Leipzig?
Professionnel, je sais pas si l'expression ça, faute professionnelle, faute professionnelle, en gros, c'est si tu passes vraiment au travers du match, si t'as pas la bonne attitude, le bon comportement. Là, tu seras dans la faute professionnelle. Tu perds, France, oui, je pense que c'est un énorme échec. Parce que.
Ce serait la Real ou la Juve, bon, c'est pas la même histoire.
Évidemment, là, c'est une très belle équipe, Leipzig, y a aucun problème. Mais c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même progression. En plus, ça peut paraître con ce que je veux dire, mais Tuchel ayant été une sorte de maître pour Nagelsmann, moi je veux bien, ça arrive que l'élève donne la leçon au maître, mais généralement quand l'élève donne la leçon au maître, c'est que le maître est passé au travers. Donc ça doit pas arriver non plus. T'as des meilleurs joueurs individuellement au PSG, t'as plus d'expérience, même si c'est des expériences négatives de Ligue des Champions. Oui, Paris doit passer et Paris qui ne profiterait pas de ce tableau, parce que mine de rien, quand il y a eu le tirage au sort, le tableau, il était positif, le tableau. Il ne faut pas se mentir. Le tableau, tout le monde a dit, ça passe contre l'Atalanta. Oui. C'est quand même passé à deux doigts de la porte, mais ça passe. Derrière, c'est Atlético ou Leipzig. Évidemment que cette partie de tableau faisait moins peur que l'autre. Oui, tu dois passer. Tu dois évacuer la pression, faire un match plein, écarter Leipzig et aller en finale contre l'équipe qui sera proposée.
Damien,
si tu fais un bilan depuis le début de saison, on peut dire que la saison du PSG jusqu'à présent est réussie, parce que l'objectif initial c'était d'atteindre le dernier carré de la Champions League.
Oui, mais moi ces objectifs. Vas-y, pardon.
Et derrière, en revanche, t'as des circonstances de tableau, de saison, d'enchaînement, qui font que. Et forcément, si tu grattes un petit peu plus, tu te dis c'est l'année au moins pour aller pour faire cette finale. quand tu vois la qualité individuelle des joueurs, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a toutes les armes pour passer demain, juste en étant au niveau. Même pas en se surpassant, juste en étant à leur niveau, ils peuvent passer demain. Donc oui, si en plus de ça, t'as la moitié de l'effectif, la moitié du staff du PSG qui a bossé pour Leipzig ou pour Salzbourg. Donc normalement, tu sais comment tu dois battre ce style d'adversaire. T'as une connaissance parfaite de tous les joueurs de l'effectif adverse. Donc, ça serait bien sûr un échec de ne pas passer face à Leipzig demain.
Parce que souvent dans cette histoire d'objectif, genre dernier carré machin. Moi, j'ai jamais cru à ce genre-là d'objectif, parce que tout dépend de ton parcours, de qui tu as éliminé, de comment ça s'est passé, de quelle attitude t'as eu dans les matchs. Pour moi, ça veut rien dire. Moi, je suis toujours de cette idée, c'est dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Parce que aller en demi sans battre personne et dire ah bah j'ai réussi mon objectif, non. Et sortir un tour plus tôt. Après avoir fait un parcours de dingue parce que t'as pas eu de bol et tu t'es tapé à chaque fois au tirage des gros et t'as été valeureux, vaillant et tu te fais taper comme ça arrive Daniel, parfois.
C'est comme si tu regardais un match en regardant les statistiques et en regardant le match derrière. Si tu regardes les statistiques, bah tu te dis ouais Paris fait un parcours exceptionnel parce qu'il est en demi-finale. Voilà. Mais quand tu regardes un petit peu, quand tu grattes un peu, tu te dis là c'est l'opportunité.
Voilà.
Richie est avec nous. Richie est supporter de Leipzig. Bonsoir Richie.
Richie Cunningham.
Salut les gars.
Salut Richie.
Est-ce que tu as connu Richie Cunningham?
Comment?
Non, tu sais pas qui c'est Richie Cunningham.
Le blouson en cuir, non?
Je vais faire attention à ce que je vais répondre parce qu'on se fait vite engueuler avec Daniel.
Non, pas du tout. T'as vu non, franchement, Johan, en plus, il était très sympa
Pourtant, à la fin, il a essayé de remettre une pièce un peu dans le jokebox là avec Verratti, mais c'est resté calme.
Tu crois qu'il avait fait exprès pour m'énerver?
C'est pour ça que je t'ai dit c'était bon, Johan.
C'était pour rire.
Richie, comment tu le sens, toi, qui soutient Leipzig?
En fait, moi, j'aime bien les deux équipes parce que je suis Leipzig depuis le début, depuis qu'ils étaient en 5e division, vraiment de la création. Donc, ça me projette supporter de Leipzig, ce qui est normal parce qu'en plus, je vais voir beaucoup de matchs là-bas. D'un autre côté, le PSG, je les suis depuis 35 ans. J'étais à Bruxelles, j'étais à Rotterdam, j'étais au quart de finale.
Oh, alors que t'es quand même plus PSG que Leipzig, quoi.
Oh, on va dire que j'aurai un club en finale. Et puis, si tu vois le verre à moitié vide, tu te dis, j'aurai un club d'éliminé, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc au niveau des équations sur le match, je pense que Leipzig, il va falloir qu'il change son système. Je pense que Nagelsmann, il n'est pas trop con. S'il garde les trois camions en défense, qui sont très bons, mais qui sont pas adaptés à la vitesse de jeu de Mbappé.
Ouais, tu veux dire Upamecano, son problème, c'est la vitesse?
Bah, Upamecano, pas seulement. Stenberg et Klostermann, c'est pareil.
Hein. Oh, Richie, Upamecano, quand il est dans, c'est le plus rapide des trois derrière, quand même.
Oui, bah oui. Upamecano, d'ailleurs, au début, je sais pas si tu te souviens, il jouait arrière-gauche, Upamecano, quand il a commencé en Bundesliga. Donc, il a quand même une certaine rapidité. Mais alors, heureusement, il n'y aura pas Verratti, enfin, heureusement pour Leipzig. Mais dans le cœur du jeu, quand Neymar et Mbappé ils vont commencer à se faire des remises et des appels en profondeur, va falloir quand même être très, très vigilant. Et pour moi, Mbappé sur le côté, etc., il risque de passer. Donc moi, je pense que Nagelsmann, il est loin d'être con. Il va sûrement titulariser. C'est pas ce qu'il se dit dans la presse allemande, mais il va sûrement titulariser Nordi Mukiele dans le couloir droit, quoi, pour amener un peu de vitesse, quoi. Pour contrer Mbappé.
C'est ça qu'on était étonné que Mukiele soit pas là. Contre l'Atlético, bon voilà.
Et surtout qu'il a fait des super matchs cette saison. Moi, je l'ai vu vraiment. Et attention, en phase offensive aussi, quand Leipzig aura le ballon, si c'est Bernat qui joue, il y aura intérêt que Kimpembe vienne couper derrière.
Moi, je suis plus inquiet de l'autre côté avec Angelino et Kerrer.
Et Di Maria, ça fait combien de temps qu'il a pas fait un super match? Quand tu regardes les deux finales de coupe, là. Il n'est pas là, Di Maria, quoi. Donc, effectivement, je pense que l'équation pour Leipzig, si Di Maria et Mbappé font tous les deux un super match, ou que Mbappé permute va du côté d'Angelino, et ça va devenir très compliqué. Mais si Di Maria est pas vraiment présent, on aura un match plus équilibré. Et attention au contre, parce que tu prends Marcel Sabitzer là, quand il se projette, ça va vite. Hein.
C'est un sacré milieu de terrain, Sabitzer.
Richie, on remercie en tout cas pour ton avis d'expert de Leipzig et on te souhaite un bon match demain.